nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Dans la préface de Portrait d'un inconnu de Nathalie Sarraute, paru en 1948, Jean-Paul Sartre employait, pour faire l'éloge de cette nouvelle littérature, le mot anti-roman. Ces œuvres ne témoignent pas de la faiblesse du genre romanesque, écrivait-il. Elles marquent seulement que nous vivons à une époque de réflexion et que le roman est en train de réfléchir sur lui-même. Plus tard, Nathalie Sarraute reprendra elle-même le terme employé par Sartre. Chaque roman, disait-elle, qui essaie d'exprimer une réalité qui n'a pas été exprimée par les romans qui l'ont précédé et qui se sert d'une technique qui lui est propre, est un anti-roman. Il me semble que si nos livres, ceux que nous écrivons maintenant, ont une validité suffisante pour durer un peu de temps, les jeunes romanciers qui écriront plus tard, pour qui nos ouvrages seront des romans traditionnels, feront les anti-romans de ces romans. En 1976, au micro de Jacques Pogam, Nathalie Sarraute partageait avec les auditeurs de France Culture ses réflexions, ses certitudes et ses doutes sur son métier d'écrivain.
Bonjour, le thème de parti pris est aujourd'hui l'écrivain et la culpabilité. Notre invité, c'est l'un des écrivains français qui font le plus pour la littérature française dans le monde, Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraute, en tant qu'écrivain, vous avez l'impression d'avoir une utilité sociale ?
Très franchement, je ne me pose plus cette question depuis longtemps parce que c'est devenu chez moi une sorte tellement partie intégrante de ma vie, de ma raison d'être. Je ne me pose pas la question, mais quand j'ai commencé à écrire avec un certain sentiment de culpabilité parce que je m'écartais d'un véritable métier, que j'avais l'impression de faire ça pour moi, pour mon plaisir. Maintenant, vous voyez, je ne me le demande jamais, je ne pense guère au lecteur, et j'ai l'impression de faire un travail comme tous les gens qui travaillent. J'ai la sensation que je ne peux pas faire autre chose, en tout cas que c'est tout ce que je peux faire. Alors, je le fais. Et quand je vois que ça intéresse des gens, eh bien ça acquiert une certaine utilité. Je ne peux jamais savoir d'avance si le livre que je viens de terminer portera ou apportera quelque chose aux gens, ce qu'il signifiera pour eux. Par conséquent, je suis obligée de ne m'occuper que de ce que je suis en train de faire, sans me poser de questions sur ce que ça deviendra entre les mains des autres.
Mais qu'est-ce qui vous a amené à persévérer alors que vos premiers textes, vous avez eu du mal à les faire passer, que même après Tropisme, certains de vos textes ont été refusés, que la critique a été très dure. Finalement, il a fallu attendre les années 55-60 pour que vous soyez véritablement reconnu. Pourquoi vous continuiez à ce moment-là ?
C'était simplement l'intérêt. L'intérêt pour la chose elle-même qui me paraissait être là, exister. Pour moi, ce qui précède le langage est d'une importance primordiale et l'impression d'une sorte d'intensité de vie intérieure et d'intensité de l'effort qui était pour moi une raison de vivre, une sorte d'exaltation, si vous voulez, dont il me devenait, était impossible de me passer. C'est très difficile d'expliquer pourquoi, tout d'un coup, on sent quelque chose très fortement, et on est sûr que ça pourrait et commencer à exister dans du langage. J'ai toujours énormément aimé, depuis que j'étais petite, n'est-ce pas, le langage lui-même, travailler le langage. Alors, renoncer à ça, c'était presque une forme de suicide. Alors, y renoncer parce que les autres ne l'acceptent pas, ça c'est absolument impossible. On ne peut y renoncer que si soi-même on cesse d'y croire. Or, je croyais très fortement à l'existence de ce que je voulais montrer à travers des mots.
Est-ce que c'est votre expérience de jeune avocate qui vous a appris très tôt que les mots étaient des pièges, au fond ?
Non, du tout. Ça, je dois dire que ça n'a joué aucun rôle à ce point de vue-là.
Est-ce que aujourd'hui vous pensez que si un certain nombre d'écrivains descendent dans la rue, c'est par réaction vis-à-vis de leurs conditions de travail et de ce qu'ils sont en tant qu'écrivains ?
Je crois que l'écrivain, d'ailleurs, est un homme, un être humain, et qu'il doit se manifester partout, en dehors de l'écriture, en tant qu'être humain, assumer sa condition, défendre ses opinions, n'est-ce pas ? Et que quand sa condition est mauvaise, eh bien, il faut qu'il proteste, comme tout travailleur.
Mais ça n'est pas considéré comme un travail, la plupart
du temps, par les gens. Justement, c'est ça. Le malheur, c'est que ça n'est pas considéré comme un travail. Et c'est ça qui est effrayant, et c'est ça qui finit par donner aux écrivains un certain sentiment de culpabilité. C'est un travail invisible. On ne le voit pas, on ne sait pas s'il est utile, on ne sait pas ce que ça vaut. Ça ne vaut peut-être rien. Ce sont peut-être des efforts qui se perdront complètement. Et je crois que tout écrivain sincère, quand il écrit, a en même temps ce sentiment de véritable souffrance dans lequel tout d'un coup il a l'impression que ce n'est rien.
Même lorsque, après 20 ans, comme vous, on vous reconnaît universellement ?
Eh bien, je peux vous dire qu'il y a un revers de la médaille. J'ai pu supporter l'indifférence ou même le dénigrement très facilement parce que j'ai pris une fois pour toutes un certain recul qui a fait que ça ne comptait pas pour moi. Mais ce même recul fait que quand la situation a plus ou moins changé, les louanges, si vous voulez, ne comptent pas non plus. Il se crée une espèce d'atrophie à l'égard de ce que pensent les gens qui font que ça ne vous encourage pas plus que ça ne vous décourageait.
C'est-à-dire qu'il y a un mur de la communication.
Il y a une espèce de durcissement, une espèce de peau d'éléphant qu'on se fait à l'égard à la fois des critiques, mais aussi évidemment des louanges. Il n'est pas possible de tenir compte des uns et de ne pas tenir compte des autres. Ce qui fait que je n'éprouve pas de satisfaction véritable à ce point de vue-là. Là où je me sens très satisfaite, c'est quand j'ai l'impression que j'ai fait tout ce que j'ai pu et que quelque chose est passé, quand je vois qu'un passage de mon livre, un texte est terminé et qu'il a une certaine vie, une vibration, que quelque chose est passé dedans, ça donne un sentiment extrêmement agréable, même de sécurité et puis de contentement, dans le sens que je me dis, ben moi, en tout cas moi, je ne peux pas faire mieux, j'ai fait tout ce que j'ai pu.
Mais est-ce qu'on peut avoir ce sentiment de sécurité lorsqu'on travaille comme vous dans une presque complète solitude ?
Eh bien, ce sentiment de sécurité vient d'une conscience apaisée par le fait qu'on a fait tout ce qu'on a pu, n'est-ce pas ? Mais de sécurité en soi, de certitude, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On joue avec le feu, c'est constamment quelque chose qui peut-être n'existe pas.
Vous doutez plus lorsque vous écrivez que lorsque vous n'écrivez pas ?
C'est difficile à dire parce que je crois que on ne peut pas dire quand, lorsque vous n'écrivez pas, parce que finalement on écrit tout le temps. Il y a des choses qui vous traversent, il y a des projets, à tout propos, ça surgit de n'importe quoi, et chaque fois il faut l'examiner et se demander, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est là un élément qui pourra prendre vie ? Alors ce doute est constant dès qu'il s'agit du travail.
Mais en dehors de ce doute-là lui-même, ça, tous les jours, vous vous mettez au travail dans un café, vous êtes
là.
Oui,
alors là, n'est-ce pas, c'est du travail. C'est un moment où je ne me laisse distraire par rien. C'est un moment de concentration. C'est le moment même où le texte se fait. Le texte écrit se fait. Mais le texte non écrit s'écrit toute la journée, si on veut.
Vous dites l'écrivain finalement est seul dans un pays comme la France, mais il y a des pays où il est encadré, où il est protégé, entre guillemets. Et là, est-ce qu'il conserve une qualité d'écrivain?
Je crois que là, c'est presque impossible, quand il est encadré, de conserver une qualité d'écrivain, parce que l'essentiel dans ce travail, c'est évidemment une liberté, une absence de crainte et de n'accepter rien qui vous soit imposé par autrui. C'est justement le fait que c'est quelque chose que vous projetez sans vous préoccuper du regard d'autrui, sans vous préoccuper de ce qu'on vous demande. Par conséquent, c'est à l'opposé de l'effort créateur, cet encadrement et cette censure. C'est exactement à l'opposé de l'attitude créatrice.
Et c'est le sens du nouveau roman, d'une certaine manière, cette revendication totale de la liberté?
C'était une revendication de la liberté d'adopter des formes qui n'étaient pas les formes qui étaient appréciées, qui étaient imposées d'une certaine façon par les critiques et les lecteurs. Je crois que c'était ça le grand avantage de ce mouvement du nouveau roman. Tous ces romanciers faisaient des choses très différentes, ce qui ne se ressemblait absolument en rien, mais tous avaient cette conviction qu'on peut, comme en peinture, comme en musique, enfin sortir le roman des formes traditionnelles et adopter des formes dont on a besoin.
Et aujourd'hui, vous avez l'impression que ce mouvement a apporté des fruits très positifs?
C'est très difficile de juger sur le moment. Il y a certains... Quels sont les livres qui ont été écrits?
Il y avait les quatre
mousquetaires. Quels sont les livres qui seront encore lus, qui prendront une importance, qui au contraire mourront? Je crois que c'est la chose absolument imprévisible. N'est-ce pas? On est obligé, quand on écrit, de faire un pari, mais il est absolument impossible de savoir ce que ça donnera plus tard, qui viendra, quels seront les nouveaux écrivains qui transformeront la littérature. Ça dépend aussi énormément de la personnalité de ces écrivains. Des écrivains comme Proust ou comme Joyce, comment pouvait-on prévoir qu'un jour viendrait, mettons, Joyce?
Proust a attendu 40 ans pour écrire. C'est un signe de la culpabilité face à l'écriture, de la peur de...
Je crois que dans le cas de Proust, il faudrait l'étudier. Il a été très longuement étudié. Je crois qu'il y avait des quantités de raisons personnelles, familiales, etc. Mais je crois qu'il y avait aussi la difficulté de la maturation d'une œuvre qui, véritablement, elle jetait tout par terre, tout ce qui l'avait précédé. Alors quand on voit son premier livre, Les plaisirs et les jours, et qu'on voit après ça, on voit même Jean Santeuil, on voit les travaux d'approche avant qu'il se mette véritablement à écrire La recherche du temps perdu, il fallait un long temps de préparation, et de préparation intérieure, celle dont je parlais, n'est-ce pas? Il travaillait toute la journée quand il allait dans les salons et quand il faisait la cour aux duchesses.
Nathalie Sarraute, tout à l'heure vous parliez de pré-langage, ça pourrait paraître un peu compliqué à certains, or lorsqu'on lit vos ouvrages, on s'aperçoit que la réalité que vous abordez est la réalité la plus banale, la plus quotidienne, c'est presque chaque instant qui est dépouillé, qui est analysé.
Bien, elle est tellement un peu banale et peu quotidienne que les gens ne la voient pas en général, que ces sortes de sensations, je lis encore récemment un ouvrage dans lequel les tropismes, qui sont des sortes de sensations qui existent chez chacun à un certain niveau de profondeur, n'ont absolument pas été vues. On a vu des dialogues qui n'avaient aucun sens, parce que c'est tellement peu, ça a été tellement peu, pas étudié si vous voulez, mais montré enfin. C'est justement une part qui, très curieusement, bien qu'elle existe, n'a pas été montrée en tant que telle dans la littérature. Ça n'a pas été pris en soi, ces mouvements intérieurs. Et ils sont loin d'être la banalité visible. C'est justement quelque chose qui est invisible. C'est pour ça que les gens, même en le lisant, ne le voient pas. Ils cherchent autre chose, ils ne voient pas ce que c'est.
C'est-à-dire qu'il faut immédiatement une certaine forme de sensibilité.
Il faut se plonger à un certain niveau de la conscience ou de la subconscience pour accéder à ça. Si on ne s'y plonge pas, si on reste en surface, au milieu des apparences dans lesquelles justement s'écoule la vie quotidienne, on ne voit rien, on ne sent rien, on ne comprend pas. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, pourquoi dit-il ça, pourquoi répond-elle ça, quel rapport ça a, que se passe-t-il. Les gens sont jusqu'à présent Il s'est passé déjà 40 ans depuis que les tropismes sont sortis, je rencontre constamment la même totale incompréhension.
C'est-à-dire qu'il n'y a que Nathalie Sarraute qui peut expliquer Nathalie Sarraute.
Non, il y a fort heureusement, il y a des gens et qui ne sont pas toujours parmi les gens les plus cultivés, qui sont très rarement des critiques de profession, qui lisent trop de choses et qui, dont la sensibilité finit quelquefois par s'émousser, qui sont plus sensibles à la forme, si on veut, que ce que la forme révèle, et des lecteurs qui le sentent spontanément, qui sentent de cette manière-là et qui entrent directement dans cette sorte de substance, dans ces mouvements intérieurs.
Mais il faut dire qu'il y a aussi un espèce de piège lorsqu'on vous lit, parce que les mots sont d'une certaine banalité, et pourtant tout ce qu'il y a derrière, c'est extrêmement tragique. Lorsqu'on
lit,
un petit côté Kafka...
Il y a les mots, n'est-ce pas ? Les mots sont toujours des mots du langage ordinaire. Le langage, les dialogues, si vous voulez parler des dialogues, parce que ce qui est entre les dialogues n'est pas plus banal que dans n'importe quelle œuvre littéraire.
Les dialogues sont d'une simplicité apparente.
Voilà, les dialogues, parce que pour les autres, je vois que mes traducteurs, par exemple, ont beaucoup de mal, parce qu'il y a énormément de mots synonymes, et je crois tout de même une certaine richesse du langage, d'après les traducteurs. Mais le dialogue est volontairement banal, mais en apparence, parce que le dialogue est justement le moment où ces mouvements intérieurs se transforment en apparaissant à la surface. Ils se manifestent à la surface à travers du dialogue qui, en apparence, est du dialogue banal. Si vous l'examinez d'assez près, il n'est pas si banal que ça, parce qu'il révèle toujours ces mouvements. Alors, si on se contente de lire les dialogues, ce qu'on fait souvent... Comme nous lisions les livres quand on était enfant, on cherchait toujours les tirets. Où est-ce que ça va commencer à parler ? On ne voulait pas lire la description de la savane. Trop ennuyeux, on cherchait le dialogue. Quand on les lit comme ça, on a lu par exemple Les Fruits d'or de cette manière-là, en regardant le dialogue. Alors, on s'est fait... c'était une illusion. On s'est imaginé, ce sont des conversations de cocktails littéraires. Mais si on les avait regardées de près, d'abord, jamais on ne parle comme ça, véritablement. Dans un cocktail littéraire ou même dans une conversation sur la littérature, ce sont des dialogues qui sont soigneusement choisis pour toujours révéler sous leur banalité apparente, car ce n'est qu'une apparence, des mouvements qui ne le sont pas, parce qu'ils n'ont jamais été montrés. On ne les a pas montrés jusqu'à présent.
Mais vous, lorsque vous concevez ce dialogue, vous réfléchissez sur cette espèce de tropisme qui sort de vous, finalement ?
C'est-à-dire de tropisme qui sort aussi de tout le monde.
Mais ça vient comment ? Ça vient comme ça. Je sais que vous travaillez beaucoup sur vos textes, mais le premier jet, ça vient, ce tropisme s'exprime, et ensuite vous le critiquez,
Ça ne se fait pas comme ça en plusieurs étapes. C'est une espèce de chose, de sensation, comme des sensations poétiques, une sorte de percée de l'apparence, si vous voulez. Et alors, à un moment donné, il faut que cette sensation soit poussée assez loin, qu'elle soit assez forte. Et alors, à ce moment-là, elle pousse, si vous voulez, les mots, elle donne un mouvement à la phrase, elle fait trouver des images, et elle se déploie jusqu'au moment où elle aboutit au dialogue. Elle aboutit ou elle n'aboutit pas, parce que quelquefois elle reste à l'intérieur. Mais quand elle aboutit au dialogue, elle projette, si vous voulez, le dialogue à la surface. Alors à ce moment-là, ce dialogue doit paraître tout à fait naturel. Il doit avoir l'apparence du dialogue habituel, parce qu'autrement, on serait hors de la réalité. Ce qui est intéressant, c'est de montrer quelque chose qui, justement, comme vous le disiez très bien, paraît banal et quotidien, et qui ne l'est pas.
Alors, au fond, vous êtes le Dostoïevski de l'apparence banale et du quotidien. Alors.
C'est difficile de commencer à comparer,
n'est-ce pas ? Il y a ça chez Dostoïevski, quand même, cette recherche des espèces de pulsions.
Mais il y a ça chez des quantités, il y a ça dans toute la littérature. Toute la littérature est pleine, mais ça existe aussi bien chez Flaubert ou chez Stendhal, par tout ce qu'il y a là. Là, c'est que ça a été pris en dehors, si vous voulez, des formes romanesques habituelles, presque d'une manière abstraite. C'est ce mouvement en lui-même qui apparaît. Ce mouvement est là, c'est ce mouvement qui constitue l'action des livres. C'est l'action dramatique est constituée par ces mouvements qui d'habitude étaient passés, n'est-ce pas, parmi tout le reste. Il y avait des personnages, il y avait des quantités de choses, il y avait de la psychologie, puis il y avait aussi quelquefois des mouvements intérieurs. Mais ici, ils sont pris pour eux-mêmes, ils existent en eux-mêmes, et c'est eux qui doivent concentrer sur eux l'attention du lecteur. Toute sa sensibilité, toute son attention doit se centrer sur le mouvement et non pas de savoir qui est-ce, qui a dit ça, quel aspect a-t-il, que fait-il dans la vie. Aucun intérêt. Est-ce un homme, une femme, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de ressentir cette espèce de mouvement et de le suivre.
Mais alors, vous parlez là des personnages, vous dites finalement il n'y a aucun intérêt. Effectivement, ils sont toujours en trompe-l'œil dans ce que
oui,
vous faites.
Oui, ils sont en trompe-l'œil.
Vous jouez avec les mots. Alors, comment expliquez-vous votre succès au théâtre? Qu'est-ce que vous apporte le théâtre en tant que mode d'écriture?
J'avais d'abord écrit pour la radio, justement parce que je ne vois guère, je ne vois pas les personnages. Visuellement, n'est-ce pas, je ne les vois pas. Quand Jean-Louis Barrault avait monté Le Silence, il me demandait quel âge ont-ils, qui sont-ils. C'est presque tout à fait au hasard que j'ai distribué des rôles entre des hommes et des femmes pour qu'il y ait des variétés. Ça varie, qu'il y ait des voix différentes à la radio. Ce qui m'intéresse, ce sont ces mouvements qui, alors, au théâtre, sont entièrement rendus par le dialogue. On a dit que c'était comme un gant retourné, parce que tout ce qui est à l'intérieur dans mes livres et qui affleure dans la banalité du dialogue, cette fois-ci, tout cela est dit. C'est-à-dire, ce sont des dialogues qui, en apparence, paraissent aussi tout à fait d'une grande banalité, parce que ce sont les mots qu'on emploie dans la conversation, dans les dialogues courants, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'on dit d'habitude. Si vous voyez le sens de ces mots, jamais on ne parle comme ça dans la réalité. La forme, si vous voulez, la forme du dialogue ordinaire, mais ce qu'elle révèle est une chose qui d'habitude n'est pas révélée, qui est entièrement cachée. C'est retourné dans les pièces de théâtre.
La question de notre invité de lundi dernier, Cornelius Castoriadis.
Bonjour Nathalie Sarraute. Pensez-vous qu'en tant qu'écrivain femme, vous exprimez quelque chose de spécifique qu'un écrivain homme ne pourrait pas exprimer, et vice-versa, trouvez-vous chez les écrivains hommes que vous appréciez le plus quelque chose de spécifiquement masculin dont vous pensez que vous ne pourriez pas l'exprimer en tant qu'écrivain femme?
Eh bien, je peux dire que jamais, à aucun moment, je peux dire presque de ma vie intellectuelle, aussi bien quand j'étudiais, je travaillais en classe, j'aimais beaucoup travailler en classe, je ne me suis vue ou sentie en tant que fille, en tant que femme. C'est une idée, c'est un retournement sur soi que j'ignore totalement. Jamais l'idée ne m'est venue de savoir est-ce que je suis une femme. Comme maintenant, je ne pense jamais ni à l'âge que j'ai, ni à rien. Je suis devant quelque chose qui est là et je me sers d'un langage qui m'a été donné et sur lequel je travaille. C'est exactement la même chose quand je lis. J'ai été terriblement influencé par des auteurs qui étaient des hommes. Et jamais l'idée ne m'est venue de faire une distinction quelconque. En lisant le livre, un livre que j'aime, que j'admire énormément, mettons Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, c'est le livre qui compte, je ne pense pas à elle, c'est un texte qui est là et c'est un texte que je pense un être humain qui serait vraiment génial a été capable d'écrire. Alors cette distinction me paraît absolument aberrante. Je crois que tous les grands écrivains, comme Shakespeare, mettons, sont justement androgynes, c'est-à-dire que c'est l'être humain dans toute sa complexité qu'ils ont réussi à se faire réaliser. Par conséquent, toute femme qui reste exclusivement femme, ou tout homme qui reste exclusivement homme, je ne sais d'ailleurs pas très bien ce que ça veut dire, parce que c'est tout à fait arbitraire, ces qualités soi-disant féminines et masculines. On décide que ça c'est féminin, ça c'est masculin, ça ne repose sur aucune expérience, sur aucune observation sincère, ce sont de véritables partis pris et des clichés. Par conséquent, je ne vois qu'une seule supériorité sur les hommes et sur les femmes, c'est celle d'un écrivain, d'un être humain qui a toutes ses qualités, un maximum de qualités, de celles qu'on attribue aux femmes et de celles qu'on attribue aux hommes.
Au fond, vous pensez d'une certaine manière que les écrivains féministes, Hélène Cixous et des femmes comme celle-là, sont finalement tout sauf des androgynes, alors.
Je crois qu'elles ont, j'espère pour elles qu'elles sont les plus androgynes possibles, mais que si elles se veulent seulement une part de l'être humain, eh bien c'est un effroyable, c'est une mutilation.
Pour vous, les mots ont
comme
sens.
Un homme d'ailleurs qui voudrait être exclusivement ce qu'on appelle viril.
Les mots ont le même sens pour un homme et pour une femme.
Absolument, parce que je me demande alors comment les femmes peuvent lire. Or, ce qu'elles lisent, elles lisent une littérature qui est en grande partie, enfin immense partie, même écrite par des hommes. Alors, comme quand on écrit, on a déjà lu avant d'écrire, et que la lecture joue un rôle énorme pour un écrivain, je me demande comment elles ont fait.
Merci Nathalie Sarraute.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 26 mai 1976. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.